Bienvenue sur le podcast Art de vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour! Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle semaine. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu différent de d'habitude, puisque ça va être un épisode questions-réponses. Il y a quelques semaines, je vous avais justement demandé de remplir un formulaire pour me poser des questions sur toutes les thématiques de votre choix. Donc merci à tous ceux et à toutes celles qui ont joué le jeu, j'ai récolté plein de questions. Donc j'ai fait une sélection d'un petit peu plus d'une dizaine de questions pour cet épisode, mais j'en ai gardé plein d'autres de côté pour potentiellement faire un prochain épisode questions-réponses à la rentrée ou un petit peu plus tard dans l'année. Donc j'ai présélectionné les questions en avance, mais je n'ai pas préparé mes réponses. Je prépare toujours mes épisodes de podcast avec un script d'ordinaire, parce que comme je fais des épisodes solo, pour qu'il y ait quand même une structure et un rythme, j'aime bien avoir un script et savoir ce que je vais dire. Là, pour le coup, je vais répondre aux questions de manière un peu plus spontanée, question après question. Je me suis en revanche rendu compte que j'avais oublié de demander les prénoms des personnes qui ont posé les questions. Donc désolée si c'est un petit peu impersonnel. La prochaine fois, pour le prochain formulaire, je penserai bien à demander les prénoms pour pouvoir réattribuer la question au prénom de la personne qui l'a posée. Mais en tout cas, on démarre tout de suite avec la première question. Peux-tu nous donner des astuces pour avoir des week-ends vraiment reposants et déconnectés, pour ne pas courir tout le week-end et se retrouver épuisé le dimanche soir ? Alors, moi, vous le savez, j'aime bien prévoir les choses, j'aime bien préparer les choses. C'est notamment pour ça que je fais une bucket list chaque saison avec toutes les choses que j'ai envie de faire, de découvrir, de lire, de regarder, de voir, de vivre saison après saison. Et ça m'aide vraiment à justement réussir à créer de la place, de l'espace, du temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Parce que sinon, on le sait tous, on est un petit peu en mode pilote auto. On se dit, ah tiens, j'ai envie de prendre un cours de poterie, mais on se met pas de date. Donc on laisse le temps passer et parfois on finit par ne jamais faire ces choses-là. Donc moi, j'aime bien au début de chaque saison me poser pour me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire durant cette saison qui arrive. Donc je l'ai fait pour l'été il y a 2 semaines. Et c'est un exercice qui est super sympa et qui après justement va me permettre d'organiser un petit peu mon temps libre et notamment mes week-ends de, par exemple, là j'ai écrit organiser un pique-nique avec des amis, faire une randonnée dans ma région, faire du bateau, aller voir Vice Versa 2 au cinéma, ce genre de choses. Donc ça va me permettre de vraiment me demander ce que j'ai envie de faire, voir ce que j'ai envie de faire et après de le répartir semaine après semaine, et notamment les week-ends, si c'est des activités pour le temps libre. Donc, pour moi, en tout cas, avoir des week-ends vraiment reposants, enrichissants, c'est important pour moi d'avoir cette planification un petit peu en amont. Et ce que j'essaye de faire de plus en plus aussi, c'est chaque week-end de à la fois planifier des activités, que ce soit à l'extérieur, avec des amis, avec des proches ou seul, mais aussi de prévoir du temps vraiment pour me reposer, me ressourcer, me régénérer. Donc là, ça va plus être du temps à la maison. Par exemple, j'aime bien être active le samedi et puis le dimanche pouvoir être un petit peu plus tranquille, pouvoir traîner, regarder une série, lire un livre, ne pas être attendu quelque part ou vraiment plus être en mode slow. Et j'essaye aussi de faire attention au temps que je passe sur mon téléphone. Vous savez que c'est un sujet dont je parle beaucoup Et du coup, le week-end, le fait de prévoir des activités, de savoir ce que j'ai envie de faire, de passer du temps avec d'autres personnes, ça m'évite de me retrouver à scroller sans fin toute une après-midi parce que bah, justement, c'est le week-end et j'ai du temps libre. Si j'ai envie de scroller activement pendant 2 heures sur Instagram ou sur TikTok parce que ça me fait plaisir, là, il n'y a aucun problème. Moi, ce que j'essaye vraiment d'enlever de ma vie, en fait, c'est ce temps passif sur mon téléphone qui ne me laisse pas avec un sentiment positif, en fait. Donc, ce que je fais souvent le week-end, c'est que je laisse mon téléphone dans une pièce et puis je vis ma vie un petit peu ailleurs. Quand je passe du temps avec des proches, des amis, c'est plus facile pour moi, en tout cas, de ne pas être sur mon téléphone. Je vais le laisser dans mon sac, par exemple. Mais en effet, j'essaye de faire attention autant que je passe sur mon téléphone le week-end parce qu'une fois de plus, comme c'est des moments de temps libre, on peut vite se retrouver avec son téléphone à la main et passer une demi-heure, une heure, 2 heures plus à scroller et à le regretter ensuite. Et j'aime bien aussi, alors j'ai pas forcément un rythme pour ça, mais j'aime bien parfois me faire une journée de digital détox. Donc souvent c'est le samedi ou le dimanche où je ne vais pas ouvrir les réseaux sociaux par exemple. Au début de l'année 2024, je m'étais dit que je le ferais une fois par mois et j'avais envie de ritualiser ça un petit peu, de me dire par exemple tous les premiers samedis du mois ou tous les premiers dimanches du mois. Mais c'est vrai que je l'ai pas mis en place. Mais ça reste une idée que j'ai un petit peu en tête et je trouve que ce serait pas mal parce que du coup, le fait de ne pas le ritualiser, ça veut dire que bon, je le fais de temps en temps, mais pas hyper souvent et potentiellement pas une fois par mois, je pense. Donc, à réfléchir peut-être pour l'année prochaine. Mais en tout cas, je trouve ça cool de se faire ce petit challenge un jour par mois, un jour par semaine ou même plus, si vous voulez, ou des demi-journées, de se dire « Ok, bah, je ne prends pas mon téléphone » ou au moins « Je n'ouvre pas les réseaux sociaux » ou « Je n'ouvre pas les applications sur lesquelles j'ai tendance à passer du temps passivement ». Alors, une autre question qui m'a été posée, c'est quels sont tes 5 films préférés et tes 5 séries préférées ? Alors là, j'ai quand même pris un petit peu le temps de réfléchir. Alors, mes 5 films préférés, je dirais le premier sans hésitation. Alors, le premier, pas forcément dans l'ordre de préférence, mais en tout cas sûr dans cette liste de 5 films préférés, je mets Forrest Gump. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. C'est le premier film que je me rappelle avoir vu quand j'étais enfant. Je me rappelle, je l'avais regardé avec mon papa. Et c'est le film qui m'a fait tomber amoureuse du cinéma, où je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, un film peut générer autant d'émotions, surtout Forrest Gump, qui je trouvais... Et un film qui est tellement, tellement beau, tellement puissant, tellement mélancolique, où on rit, on pleure, on est touché. Et c'est vraiment mon premier souvenir de cinéma. Je pense que je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du cinéma. Donc ce film a une place toute particulière dans mon cœur. Un autre film que j'adore, c'est Le Prestige de Christopher Nolan. Ce film est exceptionnel. Je l'ai vu plein de fois. Christopher Nolan, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. J'adore les sujets qu'il aborde. J'adore la manière dont il réalise. Je trouve que c'est toujours hyper fascinant et c'est des films qui retournent un peu la tête. Et ça, moi, j'adore. Un autre film que j'adore, c'est Prisoners de Denis Villeneuve, qui est aussi un réalisateur que j'aime énormément. Ce film, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. J'ai jamais vécu une expérience comme ça au cinéma. C'était à Paris, salle comble. Je crois que c'était le soir de la sortie. La tension, vraiment, était palpable dans cette salle. Et c'est la première fois où, à la fin d'un film, vous savez, le film se termine, l'écran devient noir. Normalement, tout le monde se lève quand même assez vite, où il y a en tout cas toujours au moins une vingtaine, trentaine de personnes qui se lèvent direct pour sortir vite. Là, je vous promets, dans la salle, personne n'a bougé. Comme si tout le monde s'était juste pris une claque. Et moi, c'est vraiment l'effet que m'a fait ce film. Je n'ai jamais vécu ça. Vraiment, tension palpable. Moi, j'étais assise à côté donc, de Vincent qui était venu avec moi. Et à ma gauche, il y avait une autre personne que je ne connaissais pas qui, je pense, était tellement stressée à des moments du film que je me suis dit, à tout moment, il va me saisir la main. Tellement il était en stress. Ce film est fou, donc c'est un film avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman. Incroyable. C'est un film qui est assez dur, assez fort. Voilà, il faut aimer ce genre de film. Regardez la bande-annonce et voyez si ça peut vous brancher. Mais vous en parlez, ça m'a trop donné envie de le re-regarder. Donc un autre film que j'ai mis dans cette liste, c'est You've Got Mail. Donc en français, ça s'appelle Vous avez un message, avec Meg Ryan et Tom Hanks, qui est vraiment pour moi une la comédie romantique iconique de la fin des années 90. J'adore ce film. C'est vraiment c'est un de mes films réconfort. Vous savez, ce genre de film qu'on regarde pour s'échapper un peu, se sentir bien et qui nous fait l'effet d'un gros câlin. Bah moi, You've Got Mail, c'est vraiment ça. Et le cinquième film que j'aurais envie de mettre dans cette catégorie, alors là, je vais pas être originale du tout, mais ce serait Interstellar parce que... Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, quoi ? Waouh, ce film est quand même fou. Je l'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma, je crois. Mais trop envie de le revoir. Mais je me rappelle encore de l'impact et de la force qu'avait eu ce film sur moi quand je l'avais vu. Côté série, pareil, ça n'a pas été facile d'en choisir 5. Alors, déjà, sûr, je mettrai dedans Lost. J'adore cette série. Cette série est incroyable. Je sais que les avis sont divisés sur cette série, mais moi, je ne comprendrai jamais les gens qui ne trouvent pas cette série absolument exceptionnelle. Je l'ai re-regardée il y a quelques années, vraiment toutes les saisons à la suite. C'était incroyable comme expérience. Pareil, j'aimerais trop les re-regarder encore à nouveau à la suite, mais c'était l'époque des séries où il y avait 22-23 épisodes et c'était des épisodes de 50 minutes. Donc, se refaire les 5 saisons de Lost, c'est pas mal d'heures de visionnage, mais franchement, cette série, j'ai adoré. C'est vraiment, en plus, je trouve un peu le marqueur d'une génération. C'était finalement les toutes premières séries. Je crois que Lost, c'est 2004, donc ouais, 20 ans. Mais bref, j'adore. Évidemment, je vais mettre Friends dans cette catégorie. Je pense que je n'ai pas besoin de m'expliquer, mais pareil, c'est tellement réconfort, tellement cocooning. J'ai vu chaque épisode des centaines de fois, mais vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que je regarde un épisode, je suis en train de rigoler comme une baleine, même si je sais que la blague va arriver, que je connais la blague par cœur. C'est juste une série qui fait du bien. Même si je dois avouer que j'ai un petit peu plus de mal à regarder depuis le décès de Matthew Perry. J'ai un petit pincement au cœur maintenant à chaque fois que je le vois à l'écran. Chandler, c'est vraiment mon personnage préféré. Donc, mais bon, il y a quand même toujours cet effet réconfort. Une autre série que j'ai vraiment, vraiment adorée dernièrement, c'est The Crown. On a regardé sur le tard avec Vincent, curieusement, c'était pas une série qui m'attirait beaucoup, mais on a regardé toutes les saisons l'année dernière et juste magistral, vraiment incroyable. J'ai appris tellement de choses aussi. Je trouve que c'est assez fou de voir finalement l'histoire de la reine Elisabeth et aussi elle a été témoin de tellement de choses dans l'histoire de son pays, mais aussi l'histoire du monde. Les acteurs sont incroyables, les décors, les costumes, c'est hyper immersif. Même si on n'est pas passionné de la royauté ou pas très intéressé par la famille royale anglaise, ce qui d'ailleurs était le cas de Vincent qui a regardé avec moi et qui a adoré cette série. Même si on n'est pas passionné par tout ça, c'est tellement immersif, tellement beau, tellement bien fait, tellement bien joué que je suis quasiment certaine que tout le monde apprécierait cette série. Une autre série que j'ai mis dans cette catégorie de mes 5 séries préférées, c'est Modern Family. Un peu comme Friends, en fait. Cette série, c'est un bonbon. C'est tellement bien écrit, tellement drôle. À chaque fois que je revois des anciens épisodes, j'ai l'impression d'entendre de nouvelles blagues. Le rythme, le débit est tellement rapide. C'est tellement blague sur blague sur blague. On redécouvre à chaque fois, je trouve, des nouvelles choses. Les personnages sont tellement attachants. Vraiment, ouais, un bonbon, cette série. Et la cinquième série que j'ai mis dans cette catégorie, c'est une série récente dont j'ai parlé plusieurs fois sur mon blog, sur Instagram et peut-être ici dans mes tout premiers épisodes de podcast. C'est une série qui s'appelle We Crashed et qui raconte l'histoire de la création de WeWork. C'est avec Jared Leto et Anna Tawai. C'est l'une des meilleures choses que j'ai jamais vues. Oh, ça me fait penser à une autre série dont il faut que je vous parle aussi. J'ai adoré, je suis complètement tombée dans cette histoire qui est une histoire vraie, qui est une histoire assez fascinante. Et l'autre série, alors désolée, ça fera 6, je n'ai pas respecté la demande, mais c'est True Detective et True Detective saison 1. Moi, cette saison 1 avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, elle m'a... J'ai même pas les mots pour décrire ça. Je l'ai regardée 3 fois et quasiment à la suite. Cette série est époustouflante. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur un écran. Matthew McConaughey est juste exceptionnel. L'intrigue est folle, c'est hyper immersif. Bon, il y a un petit côté... un petit côté glauque, c'est quand même assez stressant, assez dark, mais waouh. Coucou Daphné, tu es très inspirante, notamment en termes de mode. J'ai le sentiment de trop acheter de vêtements, du coup je me perds un peu dans un dressing peu clair. Quel conseil peux-tu donner pour éviter les achats compulsifs ? Alors moi j'ai une petite règle que j'ai depuis des années maintenant, je sais pas si ça vient de moi, peut-être que je l'avais lu quelque part, mais en gros dès que j'achète une pièce, je me demande toujours si je peux au moins composer 3 tenues différentes avec cette pièce que j'achète. Si la réponse est oui, j'achète sans hésiter. Si la réponse est non, je vais m'autoriser, entre guillemets, à acheter cette pièce uniquement si c'est, par exemple, une tenue pour un événement ou pour un mariage ou une pièce vraiment très forte que, OK, je vais pas forcément réussir à porter de 3 manières différentes, mais qui a une utilité très précise, ce genre de choses. Et je trouve que c'est une petite question hyper rapide à se poser, mais qui me permet vraiment de me dire, OK, est-ce que, en fait, ça, c'est un achat compulsif, je trouve ce truc joli, je le veux tout de suite, ou c'est une pièce qui va vraiment rester dans mon dressing, que je vais pouvoir porter de plusieurs manières. Depuis quelques années aussi, j'achète rarement tout de suite. Je vais me laisser le temps de réflexion. Parfois, juste quelques heures, et je vais voir si je repense à cette pièce. Et très souvent, je me rends compte qu'en fait, je l'avais vue, tout de suite, j'ai eu ce truc de la vouloir instantanément. Et puis en fait, le lendemain, quand je reviens dessus, je me dis « Oh, mais en fait, j'ai déjà une pièce qui ressemble à ça, peut-être que j'en ai pas besoin. » J'ai aussi une wish list de pièces que j'aimerais ajouter à mon dressing ou dont j'ai envie, besoin. Du coup, c'est un peu ma boussole, on va dire. Et quand j'ai envie de faire un achat compulsif, si cet achat n'est pas sur cette wishlist, je vais vraiment m'inviter à réfléchir un petit peu plus et à me demander si j'en ai vraiment besoin, puisque c'était vraiment besoin ou vraiment envie, puisque c'était pas quelque chose que j'avais mis de manière intentionnelle sur ma wishlist. Et une dernière astuce que je pourrais donner aussi, c'est d'essayer de bien identifier son propre style. Moi, ça me permet vraiment d'être guidée en fait, dans les choix que je vais faire et du coup, moins d'achats compulsifs parce que je sais exactement ce que j'aime porter, les coupes qui me vont, à quoi ressemble mon style. Pour ça, pour bien définir son style, je trouve que utiliser Pinterest, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Créer par exemple un tableau, vous épinglez dedans toutes les photos de toutes les tenues que vous aimez bien. Et ensuite, vous allez venir regarder toutes ces photos que vous avez épinglées et voir les points communs, venir vous demander, OK, ça, est-ce que j'aime bien, mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une tenue qui finalement n'est pas adaptée à mon mode de vie, à mon style de vie, et vraiment venir affiner en fait ce tableau Pinterest pour ne garder que des images d'inspiration de choses que vous aimez, que vous porteriez et qui peuvent vous inspirer pour composer vos propres tenues. J'ai prévu à la rentrée un épisode de podcast justement sur cette thématique-là. Comment définir son style, le pouvoir de la mode comme outil d'expression. Donc je vous en dirai un peu plus et je vous donnerai plein d'autres astuces dans cet épisode. Coucou Daphné, je vois que tu lis majoritairement en anglais et j'aimerais m'y mettre. Quels sont les conseils que tu me donnerais pour commencer ? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent parce que je lis énormément en anglais quand l'anglais est la langue originale du livre que je suis en train de lire, ce qui est quand même souvent le cas. Donc, je parle couramment anglais, mais j'ai notamment appris à parler anglais grâce à la lecture en anglais et aussi grâce au fait de regarder des séries et des films en VO. Le conseil que je pourrais vous donner si vous avez envie de lire en anglais, c'est... Alors, souvent, on est un petit peu hésitant parce qu'en fait, on se demande si on va vraiment comprendre. Moi, je vous recommanderais de commencer à lire en anglais un livre que vous avez déjà lu en français. Comme ça, vous connaissez déjà le contexte, l'intrigue, les personnages. Et quand vous allez vous lancer dans cette lecture en anglais, vous avez finalement déjà un petit filet de sécurité puisque vous savez déjà où vous allez. Je trouve que c'est assez rassurant. Un autre conseil que je pourrais vous donner, ce serait de ne pas chercher à chercher justement tous les mots que vous ne comprenez pas dans un dictionnaire sur Internet. Ça va potentiellement rendre l'expérience de lecture un peu pénible et un peu fastidieuse. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est que tant que vous comprenez le contexte et tant que le mot dont vous n'êtes pas certain ou certaine de connaître la définition ne vous empêche pas la compréhension générale de la phrase, du paragraphe, de continuer à lire. Évidemment, dès qu'il y a un mot qui est central et qui vous empêche la compréhension, bien sûr, cherchez-le. Donc, je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre l'œuvre qu'on est en train de lire sans forcément chercher chaque mot. En revanche, plus on lit et plus on est à l'aise, là, bien sûr, ça peut être intéressant de chercher dans le dictionnaire les mots qu'on ne comprend pas pour justement venir enrichir son vocabulaire. Mais si vous vous arrêtez à chaque phrase pour chercher trois mots, moi, de mon expérience, je dirais que c'est pas hyper plaisant du coup de lire en anglais. Un autre conseil, ça pourrait être de lire, par exemple, des romans pour jeunes adultes qui peut-être sont quand même plus accessibles en termes de lecture, en termes de vocabulaire, que d'aller lire tout de suite du Shakespeare en VO, par exemple. Bonjour Daphné, quel est ton rapport au temps qui passe? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le sentiment que tu ne vois pas les mois passer? Oui. Et c'est quelque chose sur lequel je me questionne beaucoup et sur lequel j'ai pas mal travaillé avec ma coach aussi, cette relation au temps. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette pensée limitante, en fait, que je n'avais jamais assez de temps. C'était quelque chose que je me répétais tout le temps, que les journées passaient trop vite, que je n'avais pas assez de temps, que je voulais faire ci, 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 ça. Et ça me laissait toujours un peu dans cette situation de presque d'essoufflement un peu, où j'avais l'impression de courir après le temps et que le temps, c'était une ressource dont je manquais sans cesse et dont je n'aurais jamais assez. Et le fait de changer de mindset à propos du temps et de me dire des choses plutôt comme « j'ai assez de temps pour faire tout ce qui a de l'importance pour moi » ou « je suis en charge du temps dans ma vie, j'ai le contrôle sur la manière dont j'utilise mon temps », ce genre de pensée qui va être beaucoup plus utile pour moi, qui va me créer des émotions plutôt positives, encourageantes, de motivation, alors qu'au contraire, me dire « je manque de temps, je n'ai pas assez de temps, le temps passe trop vite », ça va plutôt me générer de l'anxiété, de l'agitation, des émotions un petit peu plus négatives et qui surtout vont m'être moins utiles. Et je suis d'ailleurs en ce moment en train de lire un livre assez intéressant qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle, et qui résonne beaucoup avec moi sur justement cette tendance qu'on a tous et toutes à sans cesse vivre dans le passé ou vivre dans le futur et à très rarement être dans le moment présent, qui finalement est le seul moment qui existe réellement, puisque en fait le passé et le futur, c'est que des projections dans notre esprit. Le passé est terminé, on ne peut plus rien changer. Et le futur n'existe pas encore, donc même si on peut y réfléchir, essayer de le créer, le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment présent qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se concentre sur le moment présent, notre relation au temps va venir un petit peu changer. Lui, il parle de temps psychologique, et donc ce qu'il appelle le temps psychologique, c'est justement quand on pense au passé, quand on pense au futur, alors que le temps réel, entre guillemets, c'est une fois de plus, juste cet instant présent. Donc oui, le temps qui passe, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Je pense que plus on vieillit aussi, plus on se dit ça, on se dit « waouh, en fait, la vie, ça passe vite ». Et forcément, ça peut créer une forme de pression aussi, de se dire « ça passe vite, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment est-ce que j'ai envie d'utiliser ce temps que j'ai à ma disposition ?» Sachant qu'en plus, on sait jamais le temps qu'on aura, finalement. Et je pense que c'est aussi... c'est un peu une histoire qu'on se raconte beaucoup et qui est très moderne et très... j'ai l'impression que... moi, tous les gens à qui je parle me disent « oh là là, je vois pas le temps passer, je n'ai pas vu le temps passer ». C'est un peu un... une histoire qu'on se raconte beaucoup entre nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, puisque finalement, le temps passe de la même manière depuis la nuit des temps. Et le temps, d'ailleurs, c'est un concept qui a été créé par l'être humain. Mais c'est assez intéressant. Ouais. Ce que j'essaye de faire, c'est une fois de plus de vraiment changer mes pensées autour du temps. Et j'essaye de justement ne plus avoir cette pensée de « le temps passe trop vite, je n'ai pas assez de temps, il y a tellement de choses à faire, on n'a pas assez d'une vie pour tout faire ». J'essaye vraiment de changer cette manière de penser, en tout cas. Bonjour, merci pour ton travail très inspirant. Tes podcasts et partages sont des petites bulles de bien-être. Merci. Ma question est la suivante. Plus jeune, étais-tu déjà sensible au développement personnel et au bien-être sous toutes ses formes ? C'est une super question que je ne m'étais jamais posée moi-même et qui m'a forcée à essayer de me remettre un peu dans mon état d'esprit quand j'étais plus jeune. Et je crois que oui, j'ai toujours été sensible au bien-être et au développement personnel, même si je ne mettais pas forcément ces mots-là sur ces émotions, ces sensations quand j'étais plus jeune. Mais moi, je suis taureau et je suis vraiment la définition même du taureau, c'est-à-dire hyper épicurienne, profiter des petites choses de la vie, voir le plaisir, le bonheur dans des petites choses simples, les sens très éveillés. J'ai toujours adoré manger, adoré me faire masser, adoré les arts en général. Je pense que j'ai toujours aimé prendre soin de moi et maximiser les occasions de me sentir bien et de profiter de la vie un petit peu. Et donc après, plus tard, en vieillissant, je me suis dit, voilà, ok, je suis très sensible au bien-être. Mais même quand j'étais plus jeune, ouais, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Bonjour Daphné, combien de temps mets-tu à préparer un épisode de podcast ? Comment se passe la préparation et l'enregistrement ? As-tu des bloopers à nous partager ? Alors, combien de temps je mets à préparer un épisode de podcast ? Honnêtement, je pense que chaque épisode, c'est à peu près une dizaine d'heures de travail entre vraiment la partie trouver le sujet, faire mes recherches, préparer mon script, enregistrer, monter mon épisode, le réécouter une fois monté, le mettre en ligne, écrire la description, les ressources, ce genre de choses. Ça fera un an au mois de septembre que j'ai lancé mon podcast, donc je sens que je suis de plus en plus rodée, on va dire, et que je suis de plus en plus rapide maintenant. Au début, je me reprenais beaucoup quand j'enregistrais mes épisodes. Au niveau du montage, j'enlevais vraiment toutes les petites pauses, toutes les hésitations. Maintenant, je me dis c'est aussi agréable d'écouter un podcast un petit peu plus conversationnel où, bien sûr, j'essaye de poser ma voix. Quand il y a des pauses trop longues, je les coupe, etc. Mais il y a aussi finalement un côté spontané qui je trouvais assez appréciable. Au début, j'étais vraiment en mode lancement de mon podcast et du coup, j'avais ce côté très perfectionniste où je voulais que mon podcast soit absolument parfait, entre guillemets. Maintenant, déjà, je me sens plus à l'aise et puis je me dis aussi, voilà, c'est cool de garder un côté un peu plus spontané finalement. Pour mes sujets, en gros, une fois tous les trimestres, je prépare les sujets que j'ai envie d'aborder pour le trimestre suivant. Alors bien sûr, ça peut évoluer s'il y a des questions qui me sont posées ou si j'ai une nouvelle idée qui me vient et que j'ai envie d'aborder rapidement. Mais en tout cas, j'ai plutôt un plan 3 mois par 3 mois avec mes différents sujets. Ensuite, je vais écrire un script. Donc pour ça, je vais faire des recherches, je vais me documenter, je vais lire des articles, des livres, regarder des vidéos YouTube, écouter d'autres podcasts sur une même thématique. Et je vais du coup faire vraiment un plan avec mon script. Donc au début, j'avais vraiment un script très précis que je lisais presque mot pour mot. Maintenant, de moins en moins. Mais quand même, comme je fais des épisodes solo, je trouve que c'est important qu'il y ait un cadre, un rythme aussi, parce que sinon je trouve que ça peut vite être un peu un monologue et partir dans tous les sens. J'ai envie d'être respectueuse du temps que vous m'accordez et du coup de faire des épisodes finalement assez condensés avec pas mal d'insights pour vous. Et donc ensuite, j'enregistre. Ensuite, je fais un pré-montage rapide, moi, où je regarde, voilà, peut-être des choses que j'ai envie d'enlever. Je vous dis, je coupe les silences, les voilà. Et ensuite, je travaille avec quelqu'un qui me fait vraiment la suite du montage, qui va inclure le générique de début, de fin, les pauses musicales, qui va aussi vraiment améliorer l'audio pour que l'écoute soit la plus agréable pour vous. Et ensuite, quand je reçois l'épisode à nouveau, je vais le réécouter une dernière fois pour être sûre que tout est OK avant de le mettre en ligne. Et des bloopers à vous partager? Ben non, pas vraiment. Et je ne suis pas sûre que ce serait des bloopers hyper drôles. Ce serait surtout moi en train de bafouiller, de répéter 15 fois la même phrase et de ne pas réussir à la sortir correctement. Mais je peux y réfléchir. Je peux essayer de garder certains de mes bloopers et vous en faire écouter une prochaine fois. Mais une fois de plus, je ne suis pas sûre que ce soit fascinant. Bonjour Daphné, étant donné que tu crées du contenu lifestyle, comment différencies-tu les moments de vie avec le travail ? Par exemple, si tu testes un nouveau resto avec une amie, penses-tu à l'article que tu vas écrire dessus ? Ou encore, si vous faites une sortie avec ton mari et si vous prenez une photo, comment décides-tu de la poster pour partager vos tenues par exemple, ou de garder ce moment intime pour toi ? Alors, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement pour moi. Aujourd'hui, je ne poste quasiment plus jamais en temps réel, quand je suis en tout cas à l'extérieur, en train de vivre un moment avec des amis, des proches, justement pour pouvoir profiter de ce moment présent. Souvent, je poste quelques heures plus tard, quand je suis à nouveau seule, ou parfois même le lendemain. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, finalement. Et aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de vivre ma propre vie, de profiter de ma propre vie pour moi avant de la partager, même si j'adore la partager aussi. Mais mon objectif numéro un, c'est moi de vivre et profiter de ma vie et ensuite de pouvoir la partager si j'estime que ça peut être inspirant ou apporter de la valeur aux autres. Et c'est pas forcément là où j'étais avant. C'est vrai que plus les années avancent, plus je suis sélective, entre guillemets, dans les moments que je partage. Aussi parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de garder un espace privé. Je partage pas forcément beaucoup de moments avec ma famille, avec mes proches ou même avec mon mari Vincent sur les réseaux aujourd'hui. En tout cas, je pense moins qu'à une période parce que j'ai aussi envie évidemment de garder ça pour moi parce que c'est des moments qui sont précieux. C'est assez naturel. Quand j'ai envie de poster, je poste et quand c'est des choses que j'ai envie de garder pour moi, je les garde pour moi. Mais une fois de plus, j'étais pas forcément comme ça avant, et c'était un petit peu toxique parfois. En fait, on vit des moments, et puis on se dit, on essaye de créer du contenu via ces moments, et en s'empêchant en fait de justement de vivre et de profiter de ce moment-là, parce qu'on le voit à travers un écran de téléphone en train de prendre une photo, en train de prendre une vidéo, ou alors vous voyez un super coucher de soleil, vous prenez votre photo et le fait de le poster tout de suite, de écrire une légende, de retoucher les couleurs, en fait ça vous fait passer à côté du moment que vous êtes en train de vivre, alors que moi, c'est ce que je fais maintenant. Je prends ma photo, je remets mon téléphone dans ma poche, je profite du moment. Et le soir, quand je suis de nouveau seule, au calme, là, je vais poster, écrire une petite légende, partager un moment. Donc, je dirais que la différence entre les moments de vie et le travail, elle se fait relativement naturellement pour moi. Et je ne force rien, plus aujourd'hui en tout cas. Je me sens plus obligée, en fait. Pendant une période, si je postais pas tous les jours, j'avais un peu cette impression de comme si j'avais rien fait en fait dans ma journée, alors que bien sûr j'avais fait énormément de choses, mais il y avait un peu ce truc de en fait, si j'ai pas posté une photo de ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux pour prouver que j'ai fait quelque chose, ça veut dire que je n'ai rien fait. Je grossis un petit peu le trait, mais il y avait un peu de ça quand même, alors que maintenant je suis beaucoup plus mesurée sur tout ça. Coucou Daphné, quel est le meilleur compliment qu'on t'ait jamais fait ? Je crois que le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait et qu'on puisse me faire, c'est de me dire merci, tu m'as aidée. Merci, quelque chose que tu as fait, que tu as dit, m'a aidée. c'est vraiment, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, en fait, de me dire que j'ai pu faire une différence dans la vie de quelqu'un, même si elle est toute petite. Et je pense que c'est ce pourquoi, enfin, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais, le fait de partager. J'adore la connexion humaine, pouvoir comprendre, accompagner, aider. Je sais que c'est vraiment ma mission de vie. Et me dire que j'ai pu faire une différence dans la vie de quelqu'un, même si c'est quelque chose de tout petit. Mais par exemple, je ne sais pas, recommander un bon livre à quelqu'un et cette personne va lire ce livre et ça va lui procurer des heures de plaisir. Et bien ça, ça me fait trop plaisir de me dire que c'est grâce à moi ou qu'en tout cas, j'ai été le vecteur de ce changement ou d'un moment de plaisir ou de joie dans la vie de quelqu'un d'autre. Bonjour Daphné, comment gères-tu la préparation de tes repas ? Planifies-tu tes menus en avance pour la semaine ou est-ce que tu les fais au fur et à mesure ? Sur la base de livres de cuisine ou en partant de ce que tu as dans tes placards, ton frigo ? Alors c'est quelque chose dont j'avais parlé dans un de mes épisodes de podcast qui a été le plus écouté, qui est 15 astuces pour gagner du temps au quotidien. Alors, moi, j'adore le concept du batch cooking et j'adorerais réussir à batch cooker, mais c'est un truc qui marche pas pour moi. Je n'arrive pas à planifier en avance des grosses quantités pour pouvoir ensuite les manger au fur et à mesure de la semaine parce que je suis très... J'aime bien me demander chaque jour ce que j'ai envie de manger. Et parfois, le lundi soir, j'ai fait un plat que j'ai adoré manger, mais le mardi soir, c'est absolument pas ce que j'ai envie de manger et vous ne me le ferez pas manger. J'exagère un peu, mais vraiment, je suis un peu à me dire, bon, alors qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir ? Qu'est-ce que j'ai envie de manger ce midi ? En revanche, ce que je fais, c'est que je fais du batch cooking de mes féculents et de mes légumes. Donc le dimanche, en général, je fais cuire du riz, de la semoule, des pâtes que je vais garder au frigo. Comme ça, tout au long de la semaine, j'ai juste à réchauffer. Pareil pour les légumes. J'essaye d'éplucher et de prédécouper mes légumes et ensuite je les mets dans des boîtes bien hermétiques. Comme ça, j'ai juste, par exemple, le midi à me faire réchauffer du riz et à mettre mes légumes déjà prédécoupés dans une casserole ou les faire cuire à la vapeur. Et ça fait gagner un temps fou. Et tout paraît plus simple aussi. Le fait de ne pas avoir les légumes à laver, éplucher, couper, cuire, mais juste à cuire, ça facilite grandement le processus, pour moi en tout cas. Et sur la base de livres de cuisine ou en partant de ce que j'ai dans mes placards et de mon frigo, eh bien, les deux. Parfois, je vais avoir très envie de faire une recette ou je vais justement voir des vidéos sur Instagram avec une recette que j'ai envie de tester et du coup, c'est ce que je vais suivre. Mais après, je pars souvent de ce que j'ai dans mes placards et dans mon frigo aussi. Si vous parlez anglais, je vous recommande vraiment l'application de Deliciously Ella qui est très peu coûteuse à l'année, mais les recettes sont vraiment hyper bonnes, assez originales aussi, je suis jamais déçue. Et si vous ne parlez pas anglais, Deliciously Ella a aussi sorti des livres de cuisine qui ont été traduits en français. Donc vous pouvez aussi regarder de ce côté-là. Mais je l'adore et je me régale toujours quand je suis ses recettes. Bonjour Daphné, j'aimerais savoir quel est ton livre de développement personnel préféré et également ton podcast préféré en français. Alors, mon podcast préféré, alors si c'est un podcast de développement personnel, je citerai Change ma vie de Clotilde Dussoulier, qui est un podcast qui est vraiment hyper riche, hyper bien construit, hyper intéressant. Les épisodes sont vraiment toujours hyper impactants. J'apprends plein de choses et je recommande vraiment son écoute. C'est un podcast qui peut vraiment aider et accompagner. Ça a été le cas pour moi. Si la question était un podcast préféré, pas forcément de développement personnel, en ce moment, je suis fan du podcast 50 States. Donc même si le titre est en anglais, c'est un podcast qui est bien en français. Et qui, donc c'est 50 épisodes, ils ne sont pas encore tous sortis, le podcast est en cours, sur les 50 États des États-Unis. Et franchement, c'est trop sympa à écouter, c'est des épisodes de 20-25 minutes, hyper fun, le montage est hyper agréable, avec plein de fun facts sur la pop culture, la politique, l'histoire. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis, mais j'apprends plein de choses à chaque fois que j'écoute un épisode de 50 States. Et c'est vraiment fun à écouter. Ensuite, mon livre de développement personnel préféré en français. Je crois que je me sens obligée de citer le premier livre qui m'a fait plonger dans le développement personnel, qui en français s'appelle « Opération Bonheur » de Gretchen Rubin. En anglais, il s'appelle « The Happiness Project ». Et c'est ce livre qui a tout changé pour moi. Je l'ai lu en 2011, donc ça commence à faire un bail. Et c'est vraiment le livre qui m'a fait plonger dans le développement personnel et de manière aussi très didactique, très accessible. Et c'est ce que j'aime énormément avec Gretchen Rubin. Donc Gretchen, elle a écrit plusieurs autres livres après qui sont franchement tous excellents. Et moi, j'écoute son podcast que j'adore depuis 2015. Donc pareil, ça commence à faire un moment aussi, mais c'est mon petit plaisir toutes les semaines. J'adore son approche avec vraiment des conseils, des astuces, des choses à appliquer dans sa vie de tous les jours pour être un petit peu plus heureux, un petit peu plus épanoui. Et j'adore son approche. Si tu pouvais avoir n'importe quel super pouvoir, qu'est-ce que tu choisirais ? La téléportation. J'aime voyager, mais je n'aime pas toute la partie transport et logistique liée au voyage. J'ai vraiment une méga anxiété liée à ça. Je déteste prendre des billets de train, prendre des billets d'avion, regarder les horaires, me demander si je fais le bon choix, si c'est pas trop tôt, trop tard, etc. Je déteste faire mes valises, devoir réfléchir, regarder la météo, me demander si j'ai pris les bons vêtements, si je devrais prendre ça en plus, si je n'ai rien oublié. Je n'aime pas du tout ça. Et tout le temps du transport pour aller d'un point A à un point B, c'est vraiment des moments désagréable pour moi, parce que je n'aime pas trop la logistique non plus. Donc si seulement je pouvais me téléporter et claquer des doigts et aller d'un point A à un point B, ce serait juste incroyable. Potentiellement, j'aurais aussi pas besoin de faire de valise du coup, puisque je me re-téléporterais chez moi pour choisir mes vêtements chaque matin et je me re-téléporterais à l'endroit où je passe mes vacances, où j'ai envie d'être. Ça, ce serait la folie. L'invisibilité, pas mal aussi, mais vraiment... Téléportation en numéro 1. Bonjour Daphné, quel est selon toi le secret pour avoir confiance en soi ? Wow, ça c'est une méga question. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un secret, mais moi en tout cas, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de m'assurer que je m'apprécie moi-même avant de me demander si les autres m'apprécient. C'est une question qui est encore plus importante pour moi au vu du métier que je fais où je suis une personne publique, je reçois beaucoup de feedback positif comme négatif de beaucoup de gens sur tout ce que je fais, ce que je choisis de partager en tout cas. Et c'est un peu ma boussole en fait. Je veux m'assurer que moi, j'aime qui je suis. Et je dirais que ça, c'est un énorme booster de confiance en soi, de s'apprécier en fait. Et d'être bien avec soi-même. C'est-à-dire que je passe chaque instant de ma vie avec moi. Donc, j'ai envie de faire en sorte de m'apprécier et de passer des bons moments avec moi-même. Et ça, je ne sais pas si c'est un secret pour la confiance en soi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me génère beaucoup de confiance intérieure. De me dire, OK, je sais qui je suis, j'apprécie la personne que je suis, même si je ne suis pas parfaite, même si j'ai plein de défauts, même s'il y a plein de choses que j'aimerais changer, améliorer. Je suis aussi capable de voir ce que j'aime bien chez moi, mes forces, ce que j'apprécie, ce sur quoi j'ai peut-être envie de travailler aussi. Je pense que c'est vraiment un signe de confiance en soi et d'équilibre intérieur, d'être OK avec le fait de passer du temps seul, de passer du temps avec soi-même, de faire des choses en solo. Et ça, je dirais que c'est un bon secret de confiance en soi, de réussir à s'apprécier soi-même, de réussir à être en phase avec qui on est, avec nos valeurs, d'être finalement à l'aise avec soi-même sans passer par une validation extérieure. Voilà, j'espère que cet épisode questions-réponses vous aura plu. Au final, j'ai été assez bavarde, ce sera un épisode un petit peu long. J'espère que ça vous plaira tout de même. Et puis, comme je vous le disais, je garde sous le coude plein d'autres questions qu'on m'a posées. Donc, pour un prochain épisode questions-réponses, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en m'écrivant par mail à podcast@daphnemoreau.fr ou vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @daphnemoreau. Et comme toujours, je vais clôturer mon épisode avec, vous le savez, mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Mon premier coup de cœur, c'est un cadeau que m'ont fait des amis. C'est un carnet qui s'appelle Some Lines a Day. Et donc, c'est un journal sur 5 ans. En gros, vous avez par exemple une page 1er juillet avec 5 espaces différents pour 5 années différentes. Ce qui permet de voir année après année en écrivant ce qu'on vivait là où on était les années précédentes le même jour. C'est un petit espace, donc c'est un exercice assez rapide, peut-être vous écrivez 3-4 lignes, et je prends tellement de plaisir à faire ça depuis quelques semaines. Je pense que ce sera encore plus chouette comme expérience à partir de la deuxième année, puisque en remplissant la case de la deuxième année, je verrai aussi là où j'en étais l'année précédente. Mais je trouve que c'est un super cadeau à recevoir dans mon cas, ou à offrir aussi. Le carnet est très joli, il existe en plusieurs couleurs, et vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur musique pour le groupe américain Cayucas, que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, mais que j'aime particulièrement écouter l'été. Donc là, j'ai ressorti leur playlist Spotify. Leur style musical, c'est vraiment pop, surf rock, avec des influences un peu rétro, années 60-70. Ambiance hyper good mood, ensoleillée, insouciante un peu, vous voyez, le genre de musique que vous avez envie de mettre à fond dans la voiture quand vous avez les fenêtres ouvertes, le soir en rentrant de la plage avec un super coucher de soleil en face de vous, vous voyez l'esprit. Ça me fait un petit peu penser aussi à Vampire Weekend que j'adorais, mais qui, si je ne dis pas de bêtises, ne fait plus de musique. Bref, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode de podcast, mais pour moi, Cayucas, c'est un peu la bande-son de l'été. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier, ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast@daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.